Bonjour à tous et bienvenue dans le supplément sur Alpe 1. Bonjour Michel Classens.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Je rappelle que vous êtes scientifique, essayiste et que vous avez été également directeur de la communication et des relations extérieures du programme ITER de 2011 à 2016. Et si on vous invite ce matin, c'est parce que vous sortez un livre qui s'appelle ITER, Étoile de la science, petite histoire d'un projet scientifique titanesque aux éditions du Ménia. ITER, beaucoup en parlent, peu en savent finalement sur le fond de ce projet et ce qu'il pourra produire. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir un petit peu mieux avec vous en quelques minutes, Cyrielle.
Oui. ITER, ce fameux projet à Saint-Paul-et-Durance qui veut imiter l'énergie du soleil par la fusion. Vous parlez d'un projet gigantesque, controversé, avec d'incroyables difficultés. Pour quelles raisons ?
ITER cumule un petit peu toutes les difficultés qu'on peut imaginer pour un projet technologique, puisqu'il pousse déjà les technologies utilisées à ses limites. Il implique 35 pays qui travaillent ensemble, qui construisent la machine ensemble, donc on imagine très facilement les difficultés qui peuvent se poser. Et puis donc ce sont des cultures différentes, toutes ces pièces gigantesques, hein, pour la plupart, elles seront uniques au monde et parmi les plus grandes pièces fabriquées. Ces pièces doivent arriver à Saint-Paul-et-Durance, comme vous l'avez dit, donc c'est un très grand défi logistique en plus.
Un très grand défi logistique, assez peu palpable pour la plupart des gens qui regardent de loin ou même d'un petit peu près ce projet. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs qu'il fasse encore peur et qu'il alimente nombre de fantasmes ?
Peur pour certaines personnes, mais pas pour la majorité. Ce que j'ai vu à ITER, puisque j'ai travaillé là pendant 5 ans et j'ai accueilli des centaines de groupes de visiteurs. La plupart découvrent le projet, c'est exact. Donc, ont peu d'informations avant de venir, même pour les Français en fait. Hein, donc, alors que le projet est en construction près d'Aix-en-Provence, la plupart donc découvrent le projet et souvent concluent la visite en disant mais pourquoi on n'en parle pas plus ? Voilà, pourquoi c'est si peu connu ?
Une question, comme Alex l'a dit, vous avez été directeur de la communication et des relations extérieures du programme d'ITER. Aujourd'hui, quand vous écrivez sur ce projet, vous écrivez à quel titre ? Comme quelqu'un qui a connu les coulisses de ce projet et qui en sort déçu ?
Déçu, non. Non. Si vous lisez le livre, le ton est positif. Mais en tant que participant de l'intérieur au projet, je raconte évidemment quelques anecdotes, quelques histoires. Je détaille toute l'histoire et la sélection du site. Pourquoi, en effet, ITER est construit en France, alors qu'il aurait pu être construit en Chine, aux États-Unis, etc. Donc voilà, je détaille un petit peu tous les mécanismes de ce grand projet, à la fois historique, politique, économique et technologique, évidemment.
Ouais, au fond, à la sortie de ce livre, vous espérez quoi ? Que les lecteurs se disent c'est un beau projet qui va dans le sens de l'avenir pour l'humanité et pour découvrir et avoir peut-être la possibilité d'avoir une nouvelle énergie qui soit, comme elle est annoncée, une énergie qui soit propre ?
Mon ambition est plus modeste, je dirais. D'abord, j'écris parce que j'aime écrire, donc c'est un plaisir pour moi. Je livre en fait des informations et c'est aux lecteurs, aux lectrices de se forger leur opinion. Donc je n'anticipe pas leur décision. Je mets simplement à disposition une vision, une photographie du projet, comme je dis. Après, c'est à chacun de construire sa propre interprétation.
Justement, en parlant d'opinion, certains ont une opinion négative du projet d'ITER. C'est notamment le cas de Jean-Pierre Petit, qui est ancien directeur de recherche au CNRS, physicien des plasmas et qui vit près d'Aix-en-Provence également. Il considère que ce projet est un mystère difficilement réalisable et sans véritable direction scientifique. Il parle d'un corps sans tête et justement dans tout un essai qui fait plus de 20 pages, il détaille pourquoi ce projet n'est pas réalisable, voire même dangereux.
Oui, je connais les thèses de Jean-Pierre Petit. Oui, il y a en effet quelques scientifiques dans le monde, leur nombre est assez réduit, qui critiquent le projet, ou en tout cas critiquent certains aspects du projet. Certaines de ces critiques sont pertinentes, hein, notamment celle qu'a émis le prix Nobel français Charpak. Donc certaines de ces remarques étaient pertinentes, à savoir que ITER est très complexe, qu'il y a des incertitudes, en effet, il y a des choses qui doivent encore faire l'objet de recherches avant de pouvoir passer une phase industrielle. Donc tout ça, c'est clair, et d'ailleurs je le mentionne dans le livre aussi. Bon, simplement dire que le projet n'a pas de direction scientifique, ça je pense que pour moi c'est exagéré, c'est pas comme ça que je l'ai vécu de l'intérieur en tout cas.
J'aimerais qu'on reste aussi un petit peu concret, Michel Classin, si vous voulez bien. Concrètement, est-ce qu'on sait à quel moment ITER sera opérationnel et ouvrira le premier chapitre d'une nouvelle énergie qui se veut verte, comme je le disais tout à l'heure? Bref, finalement, à quel moment nos prises électriques se serviront de l'énergie produite par ITER ou par un équivalent d'ailleurs? On le sait, ça, d'ores et déjà?
Alors oui, on sait en effet quand le réacteur ITER va commencer à fonctionner, c'est fin 2025. Les premières réactions nucléaires qui utiliseront donc un mélange de deutérium et de tritium, les deux isotopes de l'hydrogène, pour produire les plus grandes quantités d'énergie, vont démarrer, elles, en 2035. Donc c'est en 2035, véritablement, qu'on pourra dire si, oui ou non, ITER est un succès et produit l'énergie estimée à l'heure actuelle. Après, il y aura encore une étape avant la réalisation industrielle. Donc, au plus tôt, l'électricité qui viendrait de la fusion dans nos maisons, c'est pour la deuxième moitié du siècle.
Mais soyons quand même clairs, Michel Classin, est-ce qu'on a autant de temps et autant de finances à attribuer à ITER, alors que tout le monde le sait aujourd'hui, il faut agir très rapidement concernant le développement durable, le réchauffement climatique. Est-ce qu'on a 2035 pour attendre et des milliards d'euros à dépenser dans un projet qui est toujours quand même incertain?
On sait où on va. Le soutien politique et pour le moment le soutien financier, il est garanti. L'Europe vient de proposer justement d'étendre son soutien financier pour jusqu'en 2027 à hauteur de 7 milliards d'euros. Donc je dirais que c'est assuré, les développements sont assurés à la fois politiquement et financièrement. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, idéalement il faudrait que tout vienne plus rapidement, mais voilà, bon, 2035 c'est pratiquement demain aussi. On pourrait espérer une solution technologique plus rapidement, mais voilà, on fait ce que l'on peut. Cela dit, il y a d'autres initiatives à l'heure actuelle dans le monde, hein, dans le domaine de la fusion. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. ITER n'est pas le seul, il y a d'autres initiatives. Donc tout ça devrait converger et à un moment donné, bon, une technologie, laquelle on ne sait pas encore vraiment, ITER est le plus prometteur, une technologie va émerger.
Et on n'en a ouvert qu'une toute petite porte de ITER ce matin avec vous, Michel Classin. Et j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent ce matin pour aller plus loin dans cette visite virtuelle, et bien d'ouvrir ce livre ITER, étoile de la science, petite histoire d'un projet scientifique titanesque. C'est aux éditions du Menhir pour découvrir un petit peu mieux l'intérieur d'ITER, et de comprendre peut-être un peu plus et mettre à mal certaines idées reçues que chacun peut avoir sur ce projet. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin et à très bientôt sur Alpe 1.
Merci.